Le texte d'Apocalypse 10 est l'exemple même, vous disais-je, du texte apocalyptique hermétique, plein de symboles incompréhensibles. Et je voudrais vous montrer qu'en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste vouloir jouer avec le texte, le décoder pièce à pièce, comme on lit un rébus. Et donc le début du chapitre, qui, comme dans, toujours dans la tradition biblique, le premier verset donne en quelque sorte le titre, le sens de ce qui suit. Le début, c'est « Je vis un ange ». Alors il faut savoir ce que sont les anges. Et dans la Bible, les anges ne sont pas nécessairement des créatures ailées, comme nous pouvons imaginer qu'elles le sont. Mais ange, dans la Bible, ça veut dire en hébreu comme en grec un messager. Angelos, c'est le même mot qu'a donné évangile. Évangile, c'est le bon message, et un ange, c'est un porteur de message. Et ainsi, dans la Bible, un ange n'est pas nécessairement une créature, mais un ange est toute situation, toute personne qui simplement porte un message, c'est-à-dire que c'est la personnification même de la parole. On nous dit que cet ange était puissant et qu'il descendait du ciel, qu'il était enveloppé d'une nuée, donc là, le message est clair. Nous sommes confrontés à une parole qui est la parole de Dieu, puisque Dieu habite au ciel et Dieu est la puissance et la nuée est l'un des signes également de la présence de Dieu. Et donc cela veut dire que nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Autrement dit, en français courant, « je vis un ange puissant descendant du ciel » veut dire « j'entends une parole qui vient de Dieu ». Eh bien, c'est cela le sujet du chapitre. Comment pouvons-nous être confrontés à la parole de Dieu et que pouvons-nous en faire? Il s'agit en quelque sorte du mode d'emploi de la parole de Dieu et de quelle manière elle se révèle à nous et ce qu'elle peut créer en nous. Nous allons l'entendre. Mais l'image n'est pas terminée parce que le texte déjà va nous dire quelque chose de très important à propos de cette parole. On nous dit « cet ange était puissant et tout ça comme il faut ». Mais en plus, sur sa tête était l'arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a un procédé d'interprétation de la Bible qui est valable pour tous les textes bibliques, qui avait été bien compris d'ailleurs par ce vieux traducteur protestant de la Bible qui était Louis II, qui est que seule la Bible explique bien la Bible. C'est pourquoi il avait édité cette Bible à parallèle, où, à côté de chaque verset, il mettait tous les passages de la Bible qui étaient parallèles ou qui avaient un rapport avec celui-ci. Et donc, pour comprendre un passage de la Bible, il faut chercher où ailleurs, et surtout dans l'Ancien Testament, il a été question de ce dont il est question là. Et la tradition rabbinique, qui dit la même chose d'ailleurs, dit en plus que ce qui donne le sens à une image, un objet, un symbole, une notion, c'est sa première apparition dans la Bible, le premier endroit dans la Bible où cette chose apparaît. C'est pourquoi, pour bien comprendre la Bible, il est indispensable d'avoir une bonne culture biblique. Et c'est pourquoi on apprend aux enfants, à l'école biblique, toutes ces histoires de la Genèse, de l'Ancien Testament, parce que souvent c'est là qu'il y a la clé de lecture et d'interprétation même du Nouveau Testament et de l'Évangile. Alors donc, je poserai la question aux enfants, où y a-t-il eu un arc-en-ciel dans la Bible? La réponse, normalement, est bien connue, c'est à propos de l'histoire de Noé. Vous savez que Dieu a décidé de détruire l'humanité parce qu'elle était pleine de péchés, et donc il envoie le déluge, ce qui fait une grande catastrophe, ce qui tue beaucoup de méchants, et laisse sauver Noé et sa famille. Et puis à la fin, Dieu, nous dit-on, se repentit d'avoir fait le déluge. C'est-à-dire que tout à coup, il regrette d'avoir fait cette catastrophe, détruisant les pécheurs. Et il dit, c'est promis, je ne le ferai plus jamais. Et plus jamais, 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 je ne serai source de destruction ou de mal sur la terre. Et Dieu dit encore, pour bien me souvenir de cette promesse que je fais là, je vais mettre l'arc-en-ciel dans la nuée. Et dès qu'il commencera à pleuvoir, dès qu'il commencera à y avoir des problèmes, je verrai l'arc-en-ciel et je me souviendrai de cette promesse que j'ai faite que jamais je ne ferai de mal. Et à ce moment-là, j'arrêterai de faire du mal. Et donc l'arc-en-ciel, c'est le signe de la promesse de Dieu de n'être jamais un Dieu qui fait du mal et d'être toujours un Dieu qui fait du bien. Personnellement, je pense que Dieu n'a jamais fait autre chose que du bien, mais que ce texte de Noé marque un tournant dans la théologie biblique. Auparavant, les Hébreux avaient une théologie un peu archaïque, où ils pensaient que Dieu envoyait le bien comme le mal, les tempêtes comme le beau temps, la sécheresse comme la pluie. Et à partir d'un certain moment, ils découvrent, comme nous devons en être persuadés, que Dieu n'est définitivement que source de bien et jamais de destruction, ni de mal, ni de punition. Eh bien, quand on entend un ange qui a sur sa tête l'arc-en-ciel, c'est bien pour dire que cette parole de Dieu, première chose, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une parole de menace, ce n'est pas une parole de destruction, de punition, ce n'est qu'une parole de paix, d'amour, de joie, de tranquillité et de salut. Et ça me conforte dans ce que je vous avais dit il y a quelques semaines, que je crois que la lecture catastrophique de l'Apocalypse est un contresens. Dans l'Apocalypse, il n'est pas question de destruction, de punition ou de catastrophe. Il n'est question que de bonnes nouvelles. Il suffit de lire le livre dans le bon sens. Et donc, première chose, la parole de Dieu est une parole de vie, de paix, d'amour et d'alliance, et nous devons être convaincus de cela. Ensuite, le texte nous dit que son visage était comme le ciel, comme le soleil, comme des colonnes de feu. Donc, on en rajoute encore un peu dans les signes qu'on appelle théophaniques, c'est-à-dire qui expriment la présence de Dieu. Et pour dire que cette parole, elle est très grande, très puissante et très importante, et que néanmoins, malgré cette grandeur de la parole, malgré cette transcendance de Dieu, on est dans l'ordre de l'alliance. L'arc-en-ciel, je vous l'ai dit, était le signe de cette alliance avec Noé, et que Dieu fasse alliance avec l'homme, c'est assez étonnant, parce qu'un maître ne fait pas d'alliance avec son esclave. Il le menace et il le contraint. L'alliance, c'est quelque chose que l'on fait avec un égal, avec quelqu'un que l'on considère comme étant à son niveau. Et si l'ange a aussi son arc-en-ciel sur la tête, c'est pour dire que Dieu, malgré sa grandeur et sa puissance, veut nous considérer comme des égaux, comme étant à notre niveau. Et ça, c'est évidemment une grandeur de son don, parce que par nature, nous ne sommes pas tout à fait comme ça. L'ange, nous dit-on ensuite, tenait dans sa main un petit livre ouvert. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour imaginer ce qu'est ce petit livre ouvert. C'est évidemment l'Écriture, c'est la Bible, c'est l'Évangile, c'est la Bonne Nouvelle. Et donc cet ange, il tient un livre. Ce que j'entends là, par ailleurs, c'est que ce livre, il est ouvert. Et ça, c'est aussi une conviction à laquelle je suis très attaché. C'est que justement, la connaissance biblique est ouverte. Elle est ouverte à tous. Elle est là, et ce n'est pas une parole cachée ou réservée à certains, réservée à une élite. Tout le monde peut lire et tout le monde peut entendre. C'est offert à tous. Il y a dans la main de l'ange ce petit livre ouvert. Vous n'avez qu'à le prendre pour le lire. Et d'ailleurs, ensuite, on nous dit que l'ange avait le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Bon, ça veut dire qu'il domine tout, le bien comme le mal, sur l'ensemble de toutes choses sur terre. Puis, il cria d'une voix forte, et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Là, ça devient plus compliqué. Parce que cet ange, il a deux choses. D'une part, il a un livre, c'est-à-dire cette parole objective qui nous est donnée, et bon, ben, elle est là. Et puis, par ailleurs, cet ange, il a parlé, il a crié, et il a dit quelque chose à Jean qu'il a entendu. Les sept tonnerres, c'est aussi la parole de Dieu. Et donc, nous avons là deux choses. D'un côté, la parole objective, qui est la Bible, et d'autre part, une parole divine qui lui est criée à lui seul, ce que Jean a entendu et qui n'est pas écrit. Et là, il faut comprendre qu'effectivement, ce sont là, je dirais, les deux manières avec laquelle Dieu parle aux fidèles. Dieu parle aux fidèles par la parole écrite, par la parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ, et Dieu parle aussi aux fidèles par ce que saint Augustin appelait merveilleusement la vox cordis, c'est-à-dire la voix du cœur. Et donc Dieu parle aussi dans le cœur de l'homme. Il parle dans notre cœur, dans notre esprit, par la prière, dans la méditation, dans la foi. Et donc Dieu nous parle aussi cœur à cœur, je dirais, en nous-mêmes. Et nous entendons des choses qui viennent de Dieu. Alors ce ne sont pas forcément des révélations spectaculaires, mais disons que dans notre contact avec Dieu, dans notre recherche de Dieu, nous entendons parfois ce que Dieu veut nous dire. Et voici que la voix venant du ciel dit cette chose étonnante, et il dit « Ferme ce qu'ont écrit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Ce verset à lui seul a suscité des pages et des pages de commentaires. Parce que l'ange donc dit « Ferme d'un sceau ce qu'ont écrit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de parole secrète. Ce qui a été dit à Jean reste mystérieux. Et beaucoup donc de théologiens aimeraient savoir ce que l'ange a dit à Jean et pourquoi il lui a dit de ne pas le révéler. Pourquoi y a-t-il là quelque chose que Jean n'a pas le droit de dire? Et qu'est-ce que c'était? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire, bien sûr. Mais néanmoins, je vais vous dire pourquoi il en est ainsi. C'est que ce que dit l'ange, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je crois que ce qu'il lui a dit dans ses sept tonnerres, c'est une parole intime. C'est quelque chose qui lui a été dit dans son cœur, dans son esprit et dans sa foi. Et ce que dit l'ange, c'est que cela ne regarde que lui. C'est une parole pour lui et qu'il n'a pas à le publier. Il n'a pas à en faire quelque chose pour tout le monde. Parce que chacun entend quelque chose dans son cœur provenant de Dieu. Chacun a peut-être aussi dans son rapport avec Dieu une conception qui lui est propre des choses. Eh bien, ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous découvrons dans notre rapport avec Dieu, nous devons ni en faire un exemple, ni en faire un sujet de prédication. Et j'aime d'ailleurs cette pudeur réformée qui fait que les pasteurs en chair ne parlent normalement pas d'eux. Un pasteur relate pas ses états d'âme, il ne parle pas même de sa propre foi. Je ne suis pas là pour me prêcher, je ne suis pas là pour vous dire je ressens ceci, j'entends cela, mais le pasteur est là pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire pour dire quelque chose d'objectif. Et cet évangile aura des effets divers sur l'un ou sur l'autre, mais l'effet qu'a eu l'évangile sur moi n'est ni un modèle, ni un exemple, c'est simplement ma propre histoire. Et je crois qu'il y a un danger, justement, dans ce qu'on appelle le témoignage personnel. Vous savez, certains chrétiens font cela, et devant une grande foule, ils témoignent de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. C'est parfois très beau et c'est parfois aussi très, très gênant. Parce que j'entends que pour un tel, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et puis moi j'écoute et je me dis, moi je ne ressens pas ça du tout. Et donc j'ai parfois l'impression, à l'écoute de ces témoignages, d'être un mauvais chrétien. Où je me dis, si le Saint-Esprit opère telle ou telle chose chez un tel, pourquoi est-ce que moi je ne ressens pas cela? Et donc, dans les témoignages présentés comme des exemples, comme des modèles, il y a un grand danger d'imposer aux autres de vivre l'expérience que l'on a vécue soi-même. Or, je crois qu'il n'y a pas d'exemple à suivre. Chacun peut vivre sa foi à sa manière et chacun doit vivre sa foi à sa manière sans se sentir obligé d'endosser le vêtement de quelqu'un d'autre et sans se sentir obligé de, de se forcer à faire comme s'il était capable de vivre l'expérience dont il a entendu parler que quelqu'un l'avait vécue. Et donc, soyez tranquille, vous avez votre expérience. Dieu a parlé à l'ange, l'ange a parlé, pardon, à Jean, par les sept tonnerres, et ce même ange vous parle à chacun de vous, et chacun a ses sept tonnerres à lui, personnellement. Et donc, écoutez simplement cela, et ne copiez pas sur votre voisin, ne regardez pas dans l'assiette du voisin, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Nous avons la même chose d'ailleurs dans le récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Quand on nous dit que Jésus se baisse et que là il écrit dans le sable à côté de la femme adultère. Là encore tout le monde s'est demandé qu'est-ce que Jésus a écrit ? Eh bien là encore je répondrai, cela ne vous regarde pas. Cela ne concernait que la femme adultère. C'est cette parole que Dieu, que le Christ a dite à cette femme dans son contact personnel, dans sa relation personnelle, dans son lien personnel. Elle a entendu quelque chose venant du Christ, ça ne regarde qu'elle. Et en plus, c'est écrit dans le sable, c'est-à-dire que peut-être que demain, ce sera une autre parole, et que cette parole-là aura été balayée par le vent, et une nouvelle parole lui sera donnée. Et donc, il faut abandonner l'idée qu'il y ait un modèle, un exemple, une manière de vivre sa foi. Et même l'idée qu'il y ait une loi universelle, une parole universelle. Il n'y a pas une morale valable partout sur la planète. Il n'y a pas une seule liturgie qu'il faudrait appliquer dans toutes les églises. Il n'y a pas une seule manière de vivre sa foi et même une seule manière de vivre dans le monde. Il n'y a pas une seule manière d'éduquer ses enfants, de vivre avec sa femme, de faire son métier et d'être chrétien. Mais chacun est différent et chaque cas est différent. Et donc c'est à chacun de trouver dans son rapport personnel avec Dieu comment vivre sa foi, comment vivre dans le monde. Il y a une seule référence absolue, c'est vrai, c'est la Bible. Mais la Bible ne donne pas les détails, elle ne donne que les grandes orientations. Et quand nous avons fait nos propres choix, nous ne devons pas prétendre que tout le monde devrait suivre nos options. Nous devons être, je dirais, ouverts et tolérants. On dit parfois que la tolérance n'est pas un concept biblique. Le mot ne s'y trouve peut-être pas, mais l'idée s'y trouve, comme en particulier dans ce si beau chapitre 14 de l'Épître aux Romains de Paul, qui est un des chapitres les plus tolérants qu'il soit, où Paul dira entre autres, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Ensuite, l'ange, nous dit-on, jura qu'il n'y aurait plus de temps. Cela veut dire, c'est maintenant. N'attendez pas, c'est maintenant, c'est tout de suite, maintenant, aujourd'hui, à cette minute même, que se joue l'avenir de votre vie. Alors, ne remettez pas au lendemain et faites ce que l'ange vous demande. Alors, qu'est-ce qu'il demande, l'ange ? Eh bien, il dit, « Va et prends le livre ouvert dans la main de l'ange. » Ça, c'est vrai. Le livre, il est là, il est ouvert. Il n'y a qu'à le prendre et le lire. C'est tellement facile. Faites-le. Il n'y a pas de délai. C'est pas demain. N'attendez pas la retraite ou je ne sais quoi pour le faire. Faites-le maintenant, tout de suite. Le livre, il est là, il est ouvert dans la main de l'ange, mais prenez-le et lisez-le. Alors vous me direz, mais la Bible, je la connais. Non. Vous connaissez la parabole du semeur, le bon samaritain, et voilà. Mais qui parmi vous a lu la Bible entièrement ? Ah, j'aimerais poser la question. Qui l'a lu entièrement du début à la fin ? Moi, je l'ai fait. J'ai lu entièrement le Nouveau Testament, 3 fois de suite. Chaque fois, il m'a fallu 1 an pour lire le Nouveau Testament. Après, j'ai attaqué l'Ancien. J'ai mis 3 ans à lire l'Ancien Testament. C'est un peu long. Mais néanmoins, ma vie a été transformée par cette lecture. Et je crois que je ne connais personne qui ait lu entièrement au moins le Nouveau Testament et dont la vie n'ait pas été transformée. Donc oui, il y a dans ce livre une puissance de vie, une puissance incroyable qui peut changer votre existence. Alors prenez-le, ce livre. Il y en a 10 chez vous, peut-être 20, peut-être 50. Prenez-le, il est ouvert et lisez-le. Vous commencez à Matthieu, chapitre 1, verset 1. Vous lisez une page tous les jours. Il y a 300 pages dans le Nouveau Testament. Il y a 50 jours où vous avez le droit de vous mettre en vacances. Et au bout d'un an, vous aurez lu tout le Nouveau Testament. Et votre vie sera différente. Si vous ne le faites pas, je ne pourrai pas le faire à votre place. Et l'ange dit en plus, prenez-le, prends-le et avale-le. L'avaler, c'est-à-dire le mettre en soi, le manger. Évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il n'y a pas plus à manger de livres qu'il n'y a à croquer de corps de Christ dans la Sainte Seine. Mais c'est, dirais-je, le mode d'emploi. Pour dire, ce livre, il ne faut pas simplement le lire, mais il faut l'avaler, c'est-à-dire le déguster, le faire rentrer en soi, le mettre en soi. Et donc ce livre, ce n'est pas un livre à apprendre par cœur, il ne dit pas « prends-le, lis-le, apprends-le ». Ce n'est pas à apprendre, il ne dit pas non plus « prends-le et applique-le ». Ce n'est pas un livre à obéir, à appliquer, c'est un livre à prendre et simplement à intégrer. L'avaler, le manger, vous en nourrir, nourrir votre existence de cette parole. Et ça, c'est comme la nourriture. Je vais vous dire, nourrissez-vous pour être en bonne santé. Et si vous dites, oh ben c'est bon, j'ai déjà mangé quand j'avais 10 ans, parce que là, j'avais appris la parabole du semeur. Et bien, ce que vous avez mangé quand vous aviez 10 ans ne suffit pas à vous nourrir aujourd'hui que vous en avez quelques dizaines de plus. Ou alors vous dites, oh ben je vais au culte une fois par mois, ça me suffit. Très bien, mangez une fois par mois si vous voulez. Mais la nourriture, c'est tous les jours. Et si on veut se nourrir, il faut de la régularité, de la constance. Et puis quand on mange, on ne fait pas toujours de festins merveilleux. Des fois on mange ben pour se nourrir, oui. On mange vite fait un sandwich, des nouilles, une omelette et voilà, c'est fait. Dans la lecture de la Bible, c'est pareil. On n'est pas toujours au festin. On ne lit pas toujours des textes dont on se dit « Ah, c'est formidable, quelle merveille, quelle beauté, quelle grandeur !» Bien des journées, on lit et puis voilà, rien ne se passe. J'ai mangé des nouilles à l'eau. Et pourtant, ça nourrit quand même. Et de ce que vous mangez, tout n'est pas profitable. Comme le dit l'Évangile avec une formule un petit peu discutable, mais néanmoins elle est dans l'Évangile, elle dit « De ce que vous mangez, il y en a une grande partie qui est rejetée dans quelques lieux secrets. Ben » c'est vrai, beaucoup de ce qu'on mange est rejeté dans les lieux secrets. Tout n'est pas transformé en chair, en os, en cheveux, en œil ou en neurones. De même, ce que nous lisons dans la Bible, tout n'est pas directement profitable et une grande partie entre par un œil et sort par l'autre, ou rentre par une oreille et sort par l'autre, et une grande partie ne nous profite pas, comme la nourriture que nous mangeons. Mais vous ne savez pas ce qui reste. Vous ne savez pas cette petite partie de ce que vous avez mangé un jour ou l'autre et qui progressivement va vous construire, va vous constituer et va être la base de votre être. Et puis je pourrais continuer indéfiniment sur ce thème de la nourriture si présent dans la Bible, mais je dirais juste un dernier point qui est que la nourriture c'est bien et c'est encore mieux quand on mange avec d'autres, c'est-à-dire quand on le partage. Et c'est ce que nous faisons là. L'ange dit ensuite, dans tes entrailles il sera amer, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'aurais compris qu'ils nous disent qu'il sera doux, parce que j'aimerais continuer à vous dire tant de belles choses de cette Bible en disant, vous savez, c'est une parole pleine de douceur, pleine de vie, pleine de beauté, de bonté, de choses extraordinaires. Et puis en même temps, l'ange est peut-être plus honnête que moi. Et il ne fait pas, comme je l'ai fait là, une sorte de boniment de camelot qui vous promet des tas de choses extraordinaires. Il dit, vous savez, ce sera amer dans tes entrailles. Je vois deux raisons pour cela. Soit l'une, c'est de dire... Effectivement, vous savez, cette parole, elle est pas facile à lire. Et parfois, c'est une parole dure à entendre, dure à comprendre. On bute, on ne comprend pas, ou on est contrarié, ou on ne voit pas où ça veut en venir, ou c'est rasoir, ennuyeux, on n'avance pas. Et donc cette parole, c'est vrai, c'est moins distrayant de lire le Nouveau Testament que de lire un bon roman de gare. C'est vrai. C'est moins sucré, moins drôle, moins amusant. C'est un peu amer, cette parole. Mais dans ta bouche, il y aura une douceur comme le miel. Ou alors, l'autre façon de lire, c'est dans l'autre sens, de dire, tu vas lire ça, et dans ta bouche, ce sera doux comme du miel. Tu diras, mais c'est très bien, il faut s'aimer les uns les autres, il faut partager, il faut aimer, c'est merveilleux, tout ça. Mais dans tes entrailles, ça va être un peu amer. Donc, faites attention, parce que peut-être que cette parole, elle vous entraînera à faire des sacrifices. Elle vous entraînera peut-être à renoncer à certaines choses. Peut-être que cette parole, elle va vous contrarier, venir à l'encontre de vos désirs terrestres. Et donc, ne croyez pas que ce soit une parole si simple, si facile, si agréable. Elle est douce, pleine de sucre, mais en même temps, il y a aussi là-dedans de l'amertume. Mais je crois que c'est une bonne amertume. Une amertume qui, justement, permet de laisser subsister la vie et qui permet d'éloigner ce qui ne vaut rien. Puis il me dit, il faut que tu prophétises. Alors prophétiser, ce n'est pas dire l'avenir. Prophétiser, c'est dire la parole de Dieu. Et c'est comme cela que se termine ce chapitre. Alors que tout le chapitre était sur la question de la réception de la parole objective, de la parole de la Bible dont je viens de parler longuement, et aussi de la parole du cœur que je dois recevoir avec ces sept tonnerres qui font entendre leur voix, cette parole que je dois sceller au fond de mon cœur pour m'en nourrir. Voilà que je suis dans tout le chapitre dans la réception de la parole et qu'à la fin, ce qu'il me dit, c'est toi maintenant, c'est à toi de parler. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas que de recevoir, recevoir, recevoir. Ce n'est pas de se gonfler d'Esprit Saint, de se gonfler de paroles, de lecture biblique comme une outre, jusqu'à éclater, mais c'est de pouvoir redonner cette parole et de pouvoir à son tour être dans ce monde une parole de pardon, de vie, de joie, de paix et d'amour. Donc oui, nous recevons beaucoup si nous suivons ce bon mode d'emploi de l'ange et en même temps nous sommes invités à redonner au monde cette parole de paix, d'amour, de joie, de pardon, de lumière et de vie. Amen.